8h19 à Paris, un peu d'histoire ce matin avec notre grand invité international et une bande dessinée qui nous plonge dans les soubresauts d'une période aussi étudiée que méconnue, aussi idéalisée que débattue, la Révolution française de 1789 et les premières années de la République en France. Bonjour Guillaume Mazot.
Bonjour.
Historien, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Merci d'être avec nous ce matin pour parler donc de votre bande dessinée qui vient de paraître en France dans la série L'histoire dessinée de la France. Ça s'appelle Notre Révolution, de l'Ancien Régime à la Première République, une période parmi les plus couvertes, on peut le dire, de l'histoire de France. La Révolution française, tous les écoliers l'ont étudiée, elle a fait l'objet de très nombreux livres, de BD, de films, mais elle reste en même temps un sujet de débat, de polémique. Qu'aviez-vous en tête? Que souhaitiez-vous parvenir à dire, à faire, en démarrant cet ouvrage?
Eh bien, je voulais dire que, en fait, oui, elle est très connue, elle est enseignée depuis le primaire jusqu'à la fin de la scolarité dans l'enseignement supérieur. Cette révolution, on a l'impression de la connaître. C'est pour ça que le livre s'appelle Notre Révolution. Mais qui est ce nous? En fait, et on ne sait plus trop aujourd'hui de quoi on hérite et qui sont les héritiers. Parce qu'au fond, pour la première fois, on est une génération, on est des générations qui connaissent... On ne connaît pas de révolution autour de nous en Europe, contrairement à la fin du XXe siècle, avec le démantèlement de l'ancienne URSS. Et puis, il y a des grandes questions qui nous reviennent et qu'on n'a pas l'habitude d'associer à la révolution. Je pense par exemple à la dette haïtienne. Donc, il y a des grandes questions internationales qui viennent percuter un événement qui a longtemps été raconté dans des ornières nationales, à travers le grand roman national. C'est un peu ça aussi que j'ai envie de raconter, parce que c'est ça l'histoire, c'est réexaminer les faits en fonction des questions du présent.
On suit dans votre BD une jeune héroïne dont on va reparler, qui se retrouve propulsée dans le temps et qui rencontre un duo singulier, le révolutionnaire Marat qu'on connaît bien, et celle qu'il a assassinée dans sa baignoire en 1793, Charlotte Corday, condamnée à errer ensemble pour l'éternité, à se chamailler aussi. Il passe le plus clair de votre BD à se disputer sur ce qu'était la Révolution, le sens de certains événements, et il voyage dans le temps avec une machine à remonter le temps bricolée par Marat. C'est une manière de retranscrire, tout en racontant la Révolution française, les débats, les conflits de récits qu'elle a suscité à l'époque et qu'elle continue de susciter aujourd'hui.
Oui, exactement. La Révolution française, souvent, on l'utilise alors dans les politiques publiques de la mémoire, dans les grands discours politiques, comme un élément du consensus pour rassembler. Et de fait, depuis la Troisième République surtout, elle fait partie de ce qui peut diffuser une culture républicaine et peut nous sentir être ensemble. Et puis, elle a des héritages dans notre droit, le socle de constitutionnalité, la déclaration des droits de l'homme, etc. Mais il ne faut pas oublier, et quand on fait de l'histoire, il faut toujours le rappeler, que c'est aussi un événement, ça a été une guerre civile, ça a été des débats âpres. Et puis, c'est des débats qui continuent à nous irriguer, alors parfois en sourdine, on n'en a pas l'impression, mais en fait, c'est ça que j'ai voulu traduire. La Révolution française, ça n'a jamais été l'événement consensuel, qui est un peu lissé aujourd'hui par le patrimoine, mais des débats âpres qui sont représentés par ces personnages-là qui n'arrêtent pas de s'engueuler.
Ouais.
Et j'ai essayé aussi que ce soit un peu drôle.
C'est assez ludique, c'est voilà. Un peu pour tout le monde.
Oui, alors ça se lit à partir, je dirais, de 15 ans, dirais, à partir du moment où on étudie ça au lycée, en première, 15-16 ans. Voilà.
On découvre aussi en vous lisant que quelques idées reçues tenaces sont fausses, comme le mythe de la mort de Louis XVI voté à une voix près que, j'avoue, je croyais moi-même vrai. On voit aussi que les origines de la Révolution de 1789 sont beaucoup moins simples qu'on ne le croit à retracer. On peut dire que paradoxalement, cette période est en réalité assez méconnue et que son histoire a été simplifiée par ceux qui l'ont écrite.
Oui, puisque sa mémoire et même son histoire ont été très polarisées. D'un côté, il y a ceux qui défendaient l'héritage positif de la Révolution et les autres qui l'attaquaient. Alors, il y a encore des héritages de ça aujourd'hui. Hein. Je pense par exemple au Puy du Fou, aussi à toutes les manipulations et instrumentalisations de l'histoire, tendant à montrer la Révolution comme une sorte de bain de sang ou de déclin de la civilisation, etc. En réalité, voilà, j'ai voulu introduire un peu de complexité et puis aussi... c'est mon rôle d'historien, faire le tri. C'est-à-dire qu'on est quand même à une période où il faut, les faits, l'établissement des faits, comme vous, hein, les journalistes, on est un peu dans une bataille en ce moment, et ça compte, les faits, ça compte évidemment. Hein. Là, on voit ce qui se passe avec Trump. En France, on n'est pas du tout à l'abri de ça. Voilà, donc... voilà, la terreur. Voilà, on aborde des grands sujets de manière un peu ludique.
Votre livre s'appelle donc Notre Révolution, et vous le disiez vous-même que vous vous interrogez sur ce nous et ce qu'il veut dire, parce qu'elle n'a pas bénéficié à tout le monde de la même façon. C'est le cas pour les minorités de l'époque, mais c'est le cas aussi notamment pour les femmes.
Mais oui, bien sûr. Alors, c'est la Révolution, c'est un moment, un grand moment paradoxal. fait de contrastes, en fait, de grandes avancées. D'ailleurs, on peut dire que quand même, elle a laissé des héritages quand même émancipateurs, mais pas seulement. Et très longtemps, même à l'université, hein, nous qui étions, en tout cas mes prédécesseurs, chargés de faire de la science, de l'écrire scientifiquement, contre les manipulations, mais en même temps de la défendre, pendant très longtemps, on n'a pas raconté l'histoire de ces minorités. Alors, c'est les femmes, c'est les non-blancs dans les colonies. Ouais. Dans cette BD, j'essaye de vraiment montrer que la France, c'est un empire colonial. Les juifs, les pauvres, les enfants, mais aussi les contre-révolutionnaires dont on a souvent, pas raconté l'histoire. Il est temps de remettre tout ça à plat et de raconter l'histoire de tout le monde.
Vous avez commencé à esquisser justement la dimension coloniale de la Révolution française sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde. Votre récit commence en Haïti quand votre héroïne, une secouriste, retrouve dans les décombres du séisme de 2010 l'acte original d'indépendance de 1804. Il montre aussi les révoltes dans ce qui était à l'époque la colonie de Saint-Domingue. En fait, les peuples colonisés ont joué un rôle qu'on oublie de raconter dans la Révolution française, dans son déclenchement et son déroulé.
Mais complètement. Pendant très longtemps, on a raconté l'histoire de la Révolution française à travers un prisme national, voire parisien, hein, disons-le. Mmh. Et en fait, depuis quand même au moins une cinquantaine d'années, les historiennes, les historiens ont mis en valeur la dimension internationale, globale et impériale de ces révolutions. D'ailleurs, pas seulement la Révolution française, je pense à la Révolution américaine aussi. Hein. Faut pas oublier que la France, c'est un royaume peut-être, mais c'est aussi un grand empire colonial avec Saint-Domingue, donc aujourd'hui Haïti, qui est la partie occidentale de l'île à cette époque-là, et c'est 500 000 esclaves. Mmh. Donc c'est la perle des Antilles, c'est indispensable dans le commerce du sucre et dans le commerce international, et là, dès les années 1760, y a des contestations, des révoltes, qui viennent des esclaves, de ceux qu'on appelle les libres de couleur, qui sont un peu une catégorie intermédiaire, qui sont libres mais considérés comme non-blancs, et puis aussi les colons, parce que qui se disent victimes de l'emprise de la métropole. Et tout ça joue en permanence pendant la décennie révolutionnaire.
Nous sommes d'ailleurs le 23 mai, journée nationale en France en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Et on voit justement dans votre livre que l'abolition de l'esclavage, encore portée au crédit de la Première République, est finalement moins le produit de l'esprit des Lumières et de l'esprit révolutionnaire que celui de ces révoltes dans les colonies de l'époque, c'est ça ?
Oui, c'est aussi la volonté dans cette BD de faire un peu aussi de l'histoire par le bas et de montrer l'action des anonymes. C'est cette abolition de l'esclavage, donc je parle de celle du 4 février 1794, qu'on porte toujours au crédit de la métropole. Et d'ailleurs que les métropolitains se sont appropriés à travers
avec
les
beaucoup
images,
de fierté, ouais.
Avec beaucoup de fierté. Nous, les révolutionnaires, on est émancipateurs. Alors, c'est pas complètement faux, mais en fait, quand on regarde un peu comment ça s'est passé, c'est sans le mouvement des esclaves, qui ont âprement négocié leur liberté, puis celle de leurs femmes, des enfants, de aussi tous les esclaves qui, trop abîmés par le travail servile, pouvaient plus de s'engager dans l'armée républicaine, puisque c'est aussi pour monnayer leur engagement qu'on les a émancipés. Sans ce travail-là, sans ces soulèvements-là, il n'y aurait jamais eu d'abolition de l'esclavage. Et le 4 février 1994, quand les députés le votent, alors ils votent l'abolition de l'esclavage, c'est la première fois presque à l'échelle de tout un empire. En fait, ils ne font que régulariser une situation qui a eu lieu de fait quelques mois avant à Saint-Domingue.
Et c'est l'un des nombreux aspects passionnants de votre bande dessinée, dont je rappelle le titre, Notre Révolution de l'Ancien Régime à la Première République, dans la série Histoire dessinée de la France. C'est aux éditions de La Découverte et La Revue Dessinée. Vous co-signez d'ailleurs cet ouvrage avec Mathieu Denis et Jean-Paul Krasinski au dessin. Merci Guillaume Mazot.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt sur RFI. Très bonne journée.